Sound Power pour décrypter en musique notre société. Un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. 93.9 FM et en DAB+.
Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Emile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère?
Bonsoir chers auditeurices, bienvenue dans ce 8e épisode de Sound Power, votre émission mensuelle musicale et de société sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de Prince, car le 21 avril, cela fera 10 ans que l'artiste aura disparu. Au programme ce soir, en première partie d'émission, nous allons groover sur les différentes chansons de Prince. En deuxième partie pour l'interview, nous écouterons Ersin Lebovitch, journaliste à France Info. Il a écrit le livre Prince Experience dans la tête du génie et nous racontera la vie que Prince a souvent cachée, une vie intense de surcréativité mais aussi rythmée par les souffrances. Et nous aurons également avec nous Belkacem Meziane, musicien et conférencier spécialiste des musiques afro-américaines. Il nous parlera de la question raciale et de la place de la musique noire dans la carrière de Prince. Je me souviens très bien de ce jour, le 21 avril 2016. J'étais à un vernissage d'une amie de mes parents et tout d'un coup, en regardant mon téléphone, j'apprends la nouvelle. Prince est décédé. Je suis restée clouée sur un canapé, encore choquée, en train d'essayer de réaliser que mon artiste préféré, celui avec qui j'ai grandi, a disparu. Alors pour moi, à l'approche de ce 21 avril, il était naturel de dédier une émission à Prince. Mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur le documentaire d'Ezra Edelman dédié à Prince qui a été censuré par ses héritiers. Une des raisons, l'image donnée par le film ne serait pas avantageuse, surtout sous le regard des jeunes générations de 2026. Alors c'est une image qui n'est certes pas plaisante et que beaucoup de personnes refusent d'aborder, mais qui, je pense, est importante autant pour les fans que pour les novices de Prince. Le multi-instrumentiste était piégé tout le long de sa vie dans son propre mythe, et il est temps de l'accepter en tant qu'humain. On commence notre histoire en 1976. À seulement 18 ans, il signe un contrat $1 million pour 3 albums avec le label Warner Brothers et produit lui-même sa musique. Seul Stevie Wonder avait cette liberté à l'époque. On écoute le morceau Soft and Wet du premier album de Prince, For You, sorti le même jour qu'aujourd'hui, le 7 avril 1978. Ce morceau, c'est la quintessence de tous les fantasmes sexuels d'un adolescent. Soft and Wet de Prince.
Thank you.
On écoutait à l'instant Head de l'album Dirty Mind. Dès le début, Prince se transforme en une créature androgyne, où il performe véritablement les codes genrés féminin et masculin. Il le fait par ses tenues, il porte des talons, se maquille, pose et joue presque dénudé. Il le fait aussi avec sa voix de fossé qui le rend vulnérable, mais il n'hésite pas aussi à osciller avec son hyper-virilité. Il transgresse, détourne les codes, renverse les stéréotypes de genre enfermés dans le puritanisme des États-Unis des années 80. Le morceau Head raconte l'histoire d'une femme vierge sur le point de se marier, mais qui finit par s'enfuir, satisfaite par un nouveau mari qui, pour aller droit au but, lui fait un cuni matin, midi et soir. Les chansons de Prince mettent souvent en avant le désir féminin, alors que celui de l'artiste reste soumis au bon vouloir des femmes. Mais derrière les ballades et les morceaux qui font l'aude au plaisir charnel, se cachent parfois des abus émotionnels et physiques. La percussionniste Shelahi témoigna de l'infidélité de Prince et d'une compétitivité malsaine qui était présente entre les filles. Jill Jones, qui a été la protégée de l'artiste princier, déclara avoir été abusée. Maid Garcia a beaucoup souffert de l'attitude de Prince après la perte de son enfant. Il se sentait responsable et ne s'en est jamais remis.
Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
Tout le long de son répertoire, Prince s'est attaché à ne pas rester silencieux face aux époques qu'il a vécues. S'évader dans un univers romantique et idéaliste, c'est déjà une opposition forte au climat social et politique angoissant. Les chansons orgasmique cache parfois une critique de la société de consommation, des discriminations raciales et des inégalités des États-Unis. Dans la chanson America, il montre les désillusions du rêve américain. Il ironise « Si une femme noire peine à s'en sortir, au moins, elle ne vit pas sous le régime communiste. » On écoute America de l'album Around the World in a Day.
Yeah.
Soundpower, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
À partir des années 90, Prince se transforme. Il se convertit au Témoin de Jéhovah en 1996, qui le change en tant qu'homme et artiste. Il serait devenu très hostile à toute forme d'homosexualité et modifia sa façon d'écrire, lui qui prônait jusque-là la liberté et l'inclusivité. Et puis il est libéré de Warner après une longue bataille avec son label et revient aux racines noires de sa musique. Le morceau Family Name de l'album Rainbow Children raconte la perte du patronyme des esclaves qui, après l'abolition de l'esclavage, restèrent aliénés en se reconstruisant sous de faux noms qui ne disent rien de leur identité. La meilleure façon de s'en débarrasser est de créer un nouveau nom de famille, comme des militants l'ont fait. Malcolm Little s'est renommé Malcolm X. La chanson révèle aussi les mensonges en terminant sur le discours de Thomas Jefferson, président qui a aboli l'esclavage mais qui était propriétaire de plus de 200 esclaves. On écoute la version live de la tournée One Night Alone, Family Name.
You cool with that? What's your name, madam?
Rebecca.
And what's your last name, Rebecca?
Chandler.
Oh, we're gonna give you a new name tonight, Rebecca. Outlaw. Rebecca Outlaw. What's your name?
Restful.
We're gonna change your name to Lynch. Work with it. Clap your hands, y'all. Clap your hands. Talking about family names tonight. If you wanna go higher, then we got to get deep. If you wanna go higher, oh, then we got to get deep. Portland, you still with me tonight? You say, preacher, preacher, is it true? Jesus wants me to give my money to the likes of you. Ride around in your Lexus coupe, take us to the cleaners in a pinstripe suit. Oh, preacher, that ain't true. Can I play?
your family day. Did anybody get the game? This tape in the Akashic Record.
This is Thomas Jefferson.
My fellow Americans. Yes, I own slaves too. And if there's a just God, we're gonna pay for this.
Evolution principle. You see a rock on the shore and say it's always been there. Download, no responsibility. Do what you want, nobody cares. Upload the master race idea. Genetically disposed to rule the world. Download a future full of isolated, boys and girls. Upload a two-party system. The lesser of two dangers, illusion of choice. Fascism. Nothing really ever changed. You never had a voice. One time.
If you look, you history, a colonized mind. The one in power makes law, under which the colonized fall. Without God, it's just the blind leading the blind. Well, no, a joint venture record deal. Just another way for the man to steal in the street while he's stickering you with the bill. Download a temporary acquisition, a fleeting flame and fortune, nothing to leave in your will. Hey, 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 hey.
Sound Power, l'entrevue du soir.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et pour notre interview, nous commençons par Ersin Lebovitch. Journaliste à France Info, il a écrit Prince Experience dans la tête du génie aux éditions Hors Collection. On écoute l'interview que j'ai faite avec lui la semaine dernière. Bonjour Ersin, alors pour notre interview, on va essayer de parler ensemble de Prince en tant qu'homme. On va essayer de lever les mystères que Prince a entretenus tout le long de sa carrière autour de son personnage. Et pour cela, on commence par les débuts de Prince, son enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il est venu à faire de la musique et dans quel environnement familial Prince a grandi ?
Alors, Prince a grandi avec des parents musiciens, puisque son père était pianiste d'un trio de jazz. C'était un passionné de musique lui-même et il jouait dans des clubs très souvent. Je pense qu'il a dû emmener son fils d'ailleurs de temps en temps. Sa mère était chanteuse, mais c'était un couple qui ne fonctionnait pas très bien dans la mesure où... le père de Prince a en quelque sorte mis un terme à la carrière de sa mère, c'est-à-dire que elle devait s'occuper de son enfant et lui allait jouer dans les clubs le soir, donc en plus d'un métier qu'il avait puisque c'était un musicien semi-professionnel. Et donc d'une certaine manière, Prince a baigné dans la musique, mais il a aussi baigné dans une famille assez dysfonctionnelle. Il a été témoin de disputes de son père, qui part en claquant la porte. Parfois, ses parents le laissaient même tout seul, étant bébé. Hein, il le dit, il se souvient dans son lit à barreaux d'avoir vu ses parents sortir et revenir ensuite. Donc la musique l'a marqué très fortement. C'est vraiment dans son ADN et aussi certaines formes de violence familiale et d'abandon. Je pense que l'abandon est un trait de caractère très très fort chez Prince qui va se révéler par la suite dans sa vie et dans sa carrière.
Oui, parce que il témoigne aussi de violence domestique entre son père et sa mère. Et pour lui, à cette époque, la musique, c'est un refuge.
Alors, ça devient un refuge ensuite, parce que quand il est enfant, dans ses toutes premières années, il est simplement témoin, comme tous les enfants, de ce qui se passe entre ses parents. Il sait que ses parents sont musiciens par ailleurs. Son père est pianiste. Le piano chez lui, c'est un objet vraiment sacré. D'ailleurs, son père lui interdisait d'y toucher. Et quand son père a quitté le foyer familial, c'est là qu'il a pu commencer à jouer vraiment du piano et à y passer énormément de temps. Donc là, effectivement, c'est devenu un refuge, mais plus vis-à-vis de ses propres tourments intérieurs, je pense.
Je reprends un peu le traumatisme qu'a créé sa période d'enfance dans ses mémoires inachevées. Prince, il dit qu'il est la synthèse de ses parents, que leur conflit vivait en lui. Et vous avez parlé du sentiment d'abandon. Et dans votre livre, vous tirez un peu le fil de ce sentiment d'abandon et comment il explique comment Prince a agi et pensé tout au long de sa carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça?
Oui, je pense que. Alors, les psys ont un terme pour ça, hein. Ils parlent de personnes qu'on dit abandonniques, c'est-à-dire des gens qui ont souffert de l'abandon et qui, du coup, le reproduisent, en fait, tout au long de leur vie. Et lui, alors, a vécu de multiples abandons, en réalité, parce que d'abord, son père est parti, ensuite, sa mère s'est remariée avec quelqu'un qui, visiblement, ne s'entendait pas très bien avec Prince, et il en a beaucoup souffert. Et en même temps, elle a eu d'autres enfants, donc elle s'est beaucoup occupée de ses autres enfants, et lui s'est peut-être senti un peu délaissé à ce moment-là. Donc il est reparti chez son père. Son père l'a accueilli pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il surprenne un jour avec une jeune femme chez lui. Et son père, visiblement, était extrêmement strict. Et donc il l'a mis dehors à nouveau. Et là, Prince s'est retrouvé presque à la rue, hein, carrément. Il est resté un petit peu dehors. Sa sœur raconte qu'il a appelé son père pour le supplier de le reprendre chez lui et que son père a refusé. Et donc, c'est abandon sur abandon sur abandon. Et ensuite, effectivement, au fil de sa vie, moi, j'ai constaté que musicalement, dès que quelque chose fonctionne et dès qu'il a le sentiment d'avoir fait le tour de quelque chose, eh ben, il s'en va. Et il s'en va avant que les gens ne le lâchent en réalité. Et c'est ça le trait de l'abandon. C'est-à-dire que la peur de l'abandon fait qu'on s'en va avant quand on a le sentiment que quelque chose va lâcher. Par exemple, avec son groupe The Revolution, qui est peut-être un de ses groupes les plus importants, le groupe de Purple Rain notamment, Parade aussi, quand il sent que ses musiciens en ont un peu assez de lui et de son comportement tyrannique, hein, parce que musicalement c'était quand même quelqu'un d'extrêmement exigeant. Et probablement un tyran, c'est-à-dire qu'il poussait les gens vraiment à bout. Beaucoup de gens sont partis par épuisement, ont arrêté de travailler avec lui parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement, dès ses premières années d'ailleurs. Quand il sent que les membres de son groupe en ont assez, et ben, il les lâche d'un coup, il dissout le groupe, comme ça, du jour au lendemain, quasiment sans le dire, et il passe à autre chose. Voilà, même chose avec ses compagnes.
Et pour revenir un peu sur la figure que vous avez parlé d'un artiste tyrannique qui était très exigeant avec ses musiciens, il y a aussi le souhait qu'il voulait tout contrôler, mais aussi peut-être revenir sur le fait que cette éthique de travail, cette exigence de travail, c'était aussi lui qui en souffrait. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter c'est quoi son rythme de travail qui s'imposait à lui-même et à quel point la musique était présente dans la vie de Prince?
Je dirais que Prince, c'est l'homme musique. C'est-à-dire qu'il ne vit que pour la musique, par la musique, à travers la musique. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pour lui une évasion complète et probablement un moyen d'échapper à la vie quotidienne. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était sans doute assez inadapté à la vie de tous les jours. Témoigne d'ailleurs son rapport à la drogue aussi, c'est important. Je pense que ça fait partie de l'équation. C'est-à-dire que le jour où il rencontre des drogues, des produits, il sait pas du tout le gérer. Une fois qu'il est là-dedans, et ça va avec ce qu'on disait précédemment sur le syndrome d'abandon, c'est-à-dire que la peur de l'abandon crée le besoin de contrôle, de contrôler chaque aspect de sa vie. Et de contrôler les gens aussi. C'est donc une jalousie, oui, vis-à-vis de ses compagnes, jalousie assez maladive, mais même vis-à-vis de ses musiciens. C'est-à-dire, ses musiciens n'ont aucune liberté, ils n'ont pas de temps pour eux, enfin, ils n'ont pas la possibilité de faire d'autres choses. Il y a l'exemple typique de Jimmy Jam et de son et Terry Lewis, qui étaient deux de ses musiciens, joués dans le groupe The Time, puisqu'il a créé un certain nombre de groupes satellites, mais aussi pour contrôler les gens avec qui il évoluait, comme Morris Day, par exemple, son grand copain, Morris Day d'enfance, à qui il a donné un groupe, mais il a donné un groupe qui était totalement sous son propre contrôle. C'est-à-dire, il écrivait lui-même les morceaux, il les jouait lui-même, sur les disques, c'est lui qui joue les trois quarts des parties. Et un jour où The Time était en tournée avec The Revolution, sur la tournée Purple Rain, Jimmy Jam et Terry Lewis, qui commençaient à voler de leurs propres ailes, ont pris un engagement au beau milieu de la tournée. Donc ils ont pris un avion, ils étaient censés revenir à temps pour un concert en première partie de Prince, mais il y a eu une tempête de neige, donc ils étaient en retard. Ils ont raté le début du concert. D'ailleurs, entre parenthèses, Prince a joué en coulisses, derrière le rideau, les parties de basse pour remplacer les musiciens qui n'étaient pas là. Mais il n'a pas supporté ça. C'est-à-dire, quand il a su ce qui s'était passé, il les a immédiatement renvoyés. Il a dissous le groupe The Time. Donc, les musiciens qui étaient avec lui devaient être à son service en permanence.
Beaucoup d'autres. Il se plaignait aussi de ne pas être bien rémunéré.
Oui, absolument. Il les tenait aussi par les cordons de la bourse. Il les tenait par l'argent. Effectivement, les musiciens disaient, mais comment ça se fait qu'on n'est pas payé, etc. Mais lui disait, mais c'est pas grave. Mais on voit bien que c'est des moyens de tenir les gens, de les garder, de les avoir à disposition et de contrôler tout ça.
J'aimerais juste revenir sur la consommation de drogue, qui n'a pas été un sujet longtemps chez Prince, parce que il se présentait comme quelqu'un de très clean, il critiquait les drogues. Mais dans votre livre, vous montrez que il a été addict. Et à partir de quand a commencé son addiction?
Effectivement, c'est quelqu'un qui était véritablement anti-drogue et pendant grande partie de sa carrière, mais apparemment pendant la tournée Purple Rain, il y a une séquence dans une baignoire translucide, et il semblerait que pendant une répétition, en fait, la baignoire soit tombée de l'estrade où elle se trouvait et qu'il se soit blessé à ce moment-là, et qu'il ait commencé à prendre à ce moment-là des médicaments, donc des antidouleurs, pour pouvoir continuer à faire ses shows, à faire le grand écart en talonnette sans avoir mal. Et apparemment, ça aurait commencé à ce moment-là, la prise de médicaments. Et ensuite, je pense que le moment où ça dérape, c'est que il prend des antidouleurs, et puis j'allais dire des dizaines de milliers d'Américains chaque année maintenant, il arrive au contact d'un produit mortel, extrêmement néfaste, toxique, comme le fentanyl, ce genre de d'opiacé, qui l'entraîne jusqu'à la mort, finalement.
Avant de se quitter, vous avez choisi un morceau de Prince pour la pause musicale, qui est Black Sweat, un live au Fox Theater d'Atlanta. Pourquoi vous avez choisi ce morceau?
D'abord parce que c'est sa toute dernière tournée, et c'est une tournée qui est la plus dénudée possible. Hein. C'est un artiste tellement total qu'à ce moment-là, tout ce qui lui reste à faire, c'est d'arriver devant son public avec le moins possible d'artifice, il n'y a plus de show, il n'y a plus rien, il y a juste lui, un piano. C'est un rapport extrêmement direct avec son public. C'est sa virtuosité aussi à l'instrument, hein, au piano. Le piano, c'est l'instrument qui le renvoie à son père. On en revient au début de l'histoire. Donc on peut se demander si sentant qu'il n'est pas bien, etc. Enfin, pourquoi? Bon, on ne sait pas, mais il ressent le besoin de revenir à cet instrument-là. Et en plus, c'est un morceau qui est extrêmement funky, donc il arrive à le faire vraiment groover tout seul au piano. Et c'est un moment très émouvant, parce qu'en plus, c'est vraiment un des tout derniers concerts qu'il a donné, si ce n'est le dernier d'ailleurs, avant de succomber. Et je trouve que c'est une conclusion magnifique à toute cette carrière, même si évidemment on aurait préféré que ça dure encore, parce qu'il avait encore probablement beaucoup de choses à donner.
Merci beaucoup, Ersine.
Merci à vous.
Funk. The space. Now I'm gonna take my clothes off. But I do. I don't wanna turn nobody on unless it's you. I don't wanna dance too high, but this is a groove. I'm hot and I don't care who knows it. I got work to do.
Robinson up in his room.
I don't want to break your pride, but I got to. You been take your woman and hide, hide. I'm about to. Show what's really good. Bring her off like I knew I would. Oh, I'm a working. Burning up a black sweat. If you want to, this group will make you sweet. You'll be screaming like this white lady when I count to three. One, two, three. Oh, I'm back here. Working up a black sweat. Oh, I'm back here. Working up a black sweat. Mama, I'm back here.
You know that's funky. Clap your hands in the balcony.
Musicale, c'était Black Sweat, la version live, une semaine avant le décès de Prince. Et nous sommes de retour en studio avec Belkacem Meziane. Bonsoir Belkacem.
Bonsoir.
Vous êtes musicien et conférencier spécialiste des musiques afro-américaines et on va parler ensemble de la question raciale et de la place de la musique noire dans la carrière de Prince. Alors au début de la carrière, Prince joue sur une ambiguïté sexuelle, je l'ai dit, et de genre, mais aussi sur une ambiguïté raciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Prince fait ce choix artistique et stratégique et comment fonctionnait l'industrie musicale à l'époque pour les artistes noirs et blancs?
Alors, je pense que déjà, il faut préciser, comme il vient de Minneapolis, que c'est il y a le contexte aussi de chaque ville. C'est-à-dire que venir de Memphis, de Détroit ou de Los Angeles ou de Minneapolis, c'est pas du tout la même chose. On ne vit pas les mêmes choses. Et par rapport à lui, sa culture musicale, et bien sûr, c'est James Brown et plein d'autres gens, George Clinton, Sly Stone, par exemple. Mais c'est aussi tout le rock, parce que c'est une ville peuplée énormément par une communauté blanche importante. Et donc, il y a déjà ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la volonté, c'est déjà aussi les goûts musicaux qui le font grandir et qui lui font apprécier aussi bien le groupe Chicago que James Brown. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Il faut voir aussi qu'il arrive dans une période où il y a le disco qui explose. Et je pense que Prince, parce que est-ce que je ne suis pas dans sa tête? Enfin, j'étais pas dans sa tête, mais je pense que Prince a préféré pendant pas mal d'années jouer sur ces ambiguïtés-là pour créer justement un personnage, parce que je pense qu'il avait énormément d'univers à livrer au monde. Et donc, je pense qu'il a joué là-dessus aussi par rapport au business. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 70, la musique noire américaine est vraiment très consommée par la communauté noire américaine. Mais à partir du disco, la communauté blanche va commencer vraiment à à acheter. Enfin, de toute façon, c'est 10 ans après la fin de la ségrégation. Et donc, il y a aussi des choses au niveau politique et au niveau économique qui vont faire que petit à petit, un artiste noir peut vendre et vice versa, quoi. On peut être blanc et vendre dans la communauté noire. Donc, je pense que lui a bien compris à ce moment-là, comme Michael Jackson, comme pas mal d'autres artistes, hein, Lionel Richie, etc. C'est toutes les stars noires des années 80 ont fait de la musique à destination des deux communautés.
Et puis, cette stratégie d'une ambiguïté raciale, ça se traduit par exemple sur le fait que son deuxième album, il est avec une coupe défrisée, il a une allure féminine. Et puis aussi, il va chercher du coup le public blanc parce que... sa volonté, c'était vraiment de casser les catégories. Et la catégorie, notamment, c'était le rock, l'homme hétérosexuel, blanc.
Ouais. Alors bon, on n'a pas 3 heures pour développer ça, mais c'est pas aussi facile que ça. Mais le disco, vraiment, la période disco, en termes de musique, mais aussi de mentalité, a fait beaucoup, a transformé énormément l'industrie musicale. Mmh. Et au début des années 80, quand le disco est théoriquement, avec des gros guillemets, mort en 79, le rock est revenu à la charge. Et c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, faire du funk pur et dur, c'était pas... À mon avis, stratégiquement, c'était pas viable, quoi. C'est-à-dire que on voulait le vendre comme le nouveau Stevie Wonder. On lui a proposé le Maurice White, le leader d'Earth, Wind & Fire, comme producteur. Donc les majors avaient envie de le diriger vers ça. Mais lui, il a refusé un producteur. Il a jamais annoncé à ce moment-là être le nouveau Stevie Wonder. C'est un truc marketing qui était au-dessus de lui. Et je pense que de toute façon, avec la New Wave, ce qu'on appelle la new wave, la no wave, enfin toutes les musiques un peu synthétiques, un peu punk qui arrivaient à ce moment-là, s'il a voulu sortir son épingle du jeu, c'est en mélangeant tout ça. Parce que des groupes comme Cameo, par exemple, qui est très funk, n'aura jamais le succès d'un groupe comme Prince. Voilà.
Et la question raciale et de l'aliénation des Afro-Américains va prendre une très grande importance lors d'un passage de la vie de Prince qui a été traumatique. C'est sa bataille pour gagner son indépendance vis-à-vis de son label Warner. Est-ce que, Belkacem, vous pouvez nous expliquer un peu, nous raconter cette période et comment Prince perçoit son combat contre son label comme une lutte contre le racisme ?
Alors, clairement, il y a une affaire financière, bien sûr. Il y a une affaire aussi d'image. Il y a une affaire de... je pense que ça faisait déjà une bonne, presque une quinzaine d'années qu'il était chez Warner Bros. Lui, il a toujours cherché à être indépendant. Il a créé un label qui s'appelle Paisley Park. Donc, je pense que cette volonté d'indépendance, déjà, je disais, il a refusé un producteur pour son premier album. Donc, elle est toujours là. Elle est toujours présente, cette volonté d'indépendance. Le fait de créer des répertoires aussi qui sont non officiels, des morceaux qui restent. Donc, je pense que tout ça, ça participe. Mais au milieu des années 90, je pense que c'est vraiment un mastodonte de l'industrie et qu'il a senti qu'il pouvait lutter réellement, même si d'autres étaient un petit peu doutaient de l'efficacité de son combat. Je pense que lui a toujours, de toute façon, décidé, enfin, a voulu gérer sa carrière lui-même. Et donc là, c'est vraiment le moment en 93, 94, 95, ça se passe sur plusieurs années, où il va terminer avec Warner en livrant des morceaux, en livrant des albums avec des morceaux qui étaient déjà préparés. Il a terminé son contrat, entre guillemets, et ensuite il est resté indépendant pendant pas mal d'années, quasiment jusqu'à la fin de sa vie, en choisissant des distributeurs, etc., mais en essayant de récupérer les bandes master. Alors, toutes ces histoires juridiques, il faut être vraiment dedans pour les connaître précisément, je n'ai pas cette prétention, mais... je pense que la volonté d'indépendance et la volonté de marquer qu'il était un artiste noir avait déjà commencé quelques années avant, mais qu'au moment où il s'affirme réellement avec ce symbole là qu'on voyait dans les années 90, il y a aussi dans le hip-hop et le R&B des gros pontes qui vont émerger, des gros labels qui vont gérer le hip-hop et le R&B. C'est-à-dire que ce qu'il a voulu faire dans les années 90, 10 ans avant, c'était impossible. Donc, il y a sa volonté à lui, mais il y a aussi le marché. On peut parler de Puff Daddy, voilà, désolé de mentionner cette personne-là, mais elle est vraiment très importante. Un label qui s'appelle Uptown, qui a été vraiment très important dans le New Jack Swing, dans le hip-hop. Il y a Def Jam, enfin, il y a des gros producteurs qui vont faire aussi peut-être penser à Prince, enfin, laisser croire qu'il pouvait lui aussi batailler pour ses droits un peu plus vieux.
Il y a une image forte, vous l'avez dit, Prince, il va abandonner son nom, il va plus s'appeler Prince, il va s'appeler, enfin, sous le symbole, c'est voilà. un descriptif, mais c'est un symbole qui mélange le symbole féminin et masculin, et puis aussi le nom sur sa joue, Slave.
Slave, oui, aussi, bien sûr, parce que pour lui, il était esclave dans le sens où il avait livré énormément de musique pendant 15 ans et qu'il n'avait pas récolté les fruits. Mais 15 ans avant, juste, c'est un morceau inédit, il, à la fin d'un morceau, We Can Work It Out, il remercie Warner Bros. Donc 15 ans avant, il n'a pas la même mentalité. Il est tout content de signer chez Warner Bros. Warner Bros. Quand même, en 78, il a 20 ans. Donc je pense que c'est un cheminement. Et il a rencontré entre-temps des gens comme Mavis Staples, comme George Clinton. Il a travaillé avec ces gens-là. Ensuite, il arrive petit à petit à travailler avec Larry Graham, même si ça correspond à peu près. Et je pense que aussi d'avoir rencontré toutes ces personnes-là, ça l'a, je pense, motivé et puis recentré aussi sur le fait qu'il soit vraiment noir et qu'il est. Et c'est un combat aussi qui n'était pas crucial dans les années 80 autant que justement dans la période disco, on essaye de casser un petit peu ces histoires de noir, de blanc, d'homosexuel, etc. Et ça revient dans les années 90 avec un peu plus de militantisme, de revendication. Et je pense que ça, il est dans l'air du temps.
Et puis, il y a un moyen aussi pour Prince de gagner son indépendance, et il a été un peu précurseur là-dedans, c'est l'utilisation d'Internet. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment il a fait pour produire sa musique et être libre, créativement parlant, avec l'outil d'Internet ?
Ben, selon mes souvenirs à moi, c'est à peu près vers 96, 98 à peu près, où il y avait le NPG Music Club, donc à la fin des années 90, qui livrait des morceaux. Donc c'était son club et au tout début, c'était des morceaux inédits justement. Et puis petit à petit, il a commencé à y avoir une espèce de communauté, bien sûr, des membres. Qui pouvaient acheter des albums en entier, écouter ces albums en entier ou les télécharger. Et aussi qu'il y avait des places de concert, enfin des places pour assister aux balances, etc., etc. Donc c'est vraiment devenu un truc assez important à la fin des années 90, alors que moi-même, personnellement, je n'avais même pas de collection Internet. Donc ça veut dire que ce monsieur, il a toujours été conscient de ce qui allait arriver en termes de tendance, et il a été l'un des premiers, avec David Bowie je pense, l'un des premiers à miser sur le net, alors qu'en fait il y en a d'autres qui étaient complètement largués à ce moment-là. Il a ensuite un petit peu abandonné son NPG Music Club quand Internet s'est vraiment développé, c'était peut-être un petit peu moins son centrage, mais au moment où il a rompu avec Warner Bros, c'était aussi c'était super que ça arrive à ce moment-là pour lui, parce que justement, il a trouvé un autre moyen de diffuser sa musique et ne plus le faire par le biais des disques produits par le label qui le rendait esclave, selon le mot qu'il mettait sur sa joue. Donc, c'était une bonne opportunité pour lui.
Et puis, pour finir, il y a aussi donc, cette période. Donc, il récupère toutes ses bandmasters à partir de 2014. Et puis, dans sa musique, il revient à les racines noires. Donc, ça s'entend par les musiciens avec qui il s'entoure, et puis les thèmes des chansons aussi. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ce changement, en tout cas plus assumé, dans la musique de Prince?
Est-ce que j'ai le droit de pas être d'accord ?
Oui, 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 c'est vous avez vrai. Le droit, parce que c'est droit. Vrai que c'est discutable.
Non, mais en fait, vous n'êtes pas la première du tout à sortir cet argument. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Mais peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, c'est mon avis que je vais donner aujourd'hui. Je pense que quand on écoute des inédits, des pirates live des années 85, 86, 87, ce qui reprend en live... Donc, c'est ce qui n'est pas officiel. Ce qui reprend en live, c'est Al Green, c'est les Temptations, c'est James Brown. Et il n'a jamais lâché la musique noire américaine. Il l'a faite à sa manière, mais pour moi, et donc, même dans d'autres ouvrages, j'ai trouvé cet argument que moi, je ne considère, considère pas pertinent.
Bah, très bien. Merci beaucoup, Belkacem, pour votre présence.
Merci à vous. Bravo pour votre émission. Franchement, j'étais ravi.
Et je remercie également Ersin Lebovitch pour sa participation. Si détenir la vérité sur Prince est mission impossible, j'ai voulu, avec cette émission, partager plutôt mon expérience autour de Prince. D'abord, celle d'un apprentissage de sa musique et puis de sa personne. Un récit qui, je pense, restera rare encore cette année dans les médias. Merci à la réalisatrice de l'émission, Suzanne, qui m'a convaincue de l'importance de faire cet épisode. Vous pouvez retrouver la playlist et cette émission sur le site de Radio Campus Paris et sur vos plateformes de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. On se quitte sur le morceau Emancipation, choisi par Belkacem. Quelques mots sur ce morceau, Belkacem.
Je vais dire quelques mots sur cet album. Il est superbe, c'est un triple. Et là, c'est vraiment la preuve qu'après toutes 15 ans de Warner, il a encore la patate. Et que vraiment, je conseille à beaucoup de gens d'écouter ce triple album qui est merveilleux.
Merci beaucoup, c'était Soundpower. Rendez-vous le mois prochain, le mardi 5 mai à 21h. Mais avant ça, je serai le 23 avril à la Gaîté Lyrique pour une émission collaborative sur le thème de la migration. Très belle soirée sur Radio Campus Paris. Show.